Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et il est 18h, si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1, on est avec le commissaire David Le Barce. Est-ce que vous avez compris, commissaire, ce que le gouvernement, le président veulent faire concernant le contrôle des policiers? Donc on nous parle d'un contrôle indépendant du contrôle des policiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rajoute quelque chose au-dessus de l'IGPN qui est vous contrôle, vous les policiers?
Moi je pensais qu'on apprendrait tout ça demain, puisque c'est demain que le président de la République clôture le Beauvau de la sécurité à Roubaix. Et j'y serai d'ailleurs, parce que j'y suis convié. Donc je vais commenter une annonce presse. Une annonce faite à l'Élysée, de l'Élysée à la presse. En tout cas, si mes antennes sont bonnes.
Mécontente déjà?
La méthode, elle n'est pas nouvelle. Hein. Il y a souvent des choses qui sont un peu lâchées avant, et puis ensuite ça rentre dans le débat et on a des précisions. Mais ce qui m'ennuie, c'est que c'est sans doute le sujet le plus sensible du Beauvau de la sécurité. Il n'y a qu'à regarder les tweets et les communications de ceux qui détestent la police, qui voient déjà là le signe de « on a raison, regardez, l'IGPN était une institution de copains qui couvrait des copains ». Et puis il y a ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, tout le volet judiciaire, Sandra Buisson l'a dit, il est déjà sous le contrôle de la justice. Une enquête judiciaire de l'IGPN, c'est soit un juge d'instruction, soit un procureur qui la contrôle et qui la dirige. Donc reste le volet administratif. Moi, j'ai pas d'état d'âme à l'idée que, pourquoi pas, il y ait une observation extérieure sur le volet administratif de l'IGPN, parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'a pas été bon dans la bataille de la parole, de la communication, et que l'IGPN s'est fait salir à tort sur une activité qu'elle n'aurait pas. Ce qui est dommage, c'est que ça ne vienne pas en complément d'un renfort d'IGPN. Il faut que les gens sachent que l'IGPN, c'est une centaine d'enquêteurs sur tout le territoire national. Et s'il y a un pic de saisine de l'IGPN, notamment à l'époque des Gilets jaunes, eh ben c'est 100 enquêteurs. S'ils ont 3, 4, 5 fois plus de dossiers, ce qui est le cas, parce qu'ils ont été abondamment saisis et par l'autorité administrative et par les magistrats, eh bien la capacité à traiter se ralentit d'autant. Mais enfin, tout ça, c'est un long débat. On verra ce qu'annonce le président. Mais voilà, il y a un volet qui pourrait être sous le regard extérieur d'une entité ou d'une autorité. Je ne sais pas quelle forme ça prendra. On verra ce que dit le président.
Peut-être parlementaire.
Peut-être. Il faut aussi rappeler qu'il y a une nécessité de parallélisme des formes. Ce n'est pas que j'en veux à mes petits camarades de la
gendarme.
Oui, mais c'est important parce que le signal donné, il y a deux inspections au sein du ministère de l'Intérieur pour deux forces de sécurité intérieure. Attention à ce qu'il n'y ait pas un déséquilibre pour ne justement pas donner un signal à ceux qui détestent la police de dire, vous voyez, c'est la police qui ne va pas bien, alors que c'est faux. Et ça montrerait un signal négatif en termes de communication.
Bien sûr. Julien Drey, est-ce qu'il faut réformer le contrôle des policiers?
Je pensais que le Beauvau de la police, c'était d'abord l'action de la police sur le terrain. C'est-à-dire les moyens, le redéploiement, les méthodes d'intervention peut-être. Mais si le seul élément qui ressort, ça va être simplement de la manière dont on contrôle la police, me semble-t-il, il va y avoir beaucoup de déceptions et surtout on sera passé à côté du problème. Alors moi, je ne suis pas contre qu'on modifie les choses sur le plan du contrôle de la police, mais il ne faut pas non plus inventer des choses qui n'ont aucun sens. Je ne vois pas comment le Parlement peut contrôler l'IGPN. Franchement, ça va être très compliqué. Voilà. Donc il y ait peut-être une personnalité morale qui sert de référence, comme il y a souvent des hautes autorités, etc., qui permettraient justement un recours. Ça, je suis pas contre, c'est pas inutile. Mais franchement, attention dans le moment dans lequel on est dans un moment de fragilité important, y compris des forces de police sur le terrain, qui se demandent si elles ont encore la confiance de la nation, si elles sont soutenues, et si le seul élément qui ressort, le seul élément de débat, c'est comment on contrôle la police elle-même, je suis pas convaincu que ce soit réussi.
Maître Golnadel, il faut rajouter un contrôle au contrôle concernant les policiers.
Je ne sais pas, tant que je n'ai pas vu exactement à quoi ressemble la proposition, j'ai du mal à en dire du mal. Non, mais David Le Barce, je peux vous dire que ça fait longtemps que j'ai renoncé à recueillir les impressions de ceux qui détestent la police, comme les abrutis qui le criaient hier à la fête de l'humanité. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, il n'y a rien à faire. Je ne suis pas le plus mal placé pour vous dire que l'IGPN, les boeufs carottes, comme on les appelle ordinairement, ils ne font pas de cadeaux aux flics. Hein. Moi, je peux vous dire que j'ai un syndicaliste flic qui est convoqué le 15 pour, à mon avis, des choses totalement injustes. Je ne suis pas tranquille. Hein. Ils ne sont pas connus. En tous les cas, peut-être que ceux qui détestent la police ont une vue particulière de l'IGPN, mais les policiers eux-mêmes ne considèrent pas que l'IGPN soit spécialement indulgent vis-à-vis d'eux, on est bien d'accord là-dessus. Donc je ne sais pas bien ce que... Je crains que ce soit... Je fais peut-être un procès d'intention injuste au gouvernement, mais je crains que ça soit un peu un effet d'annonce, et puis surtout, histoire de faire quelques réformes avant une certaine échéance. Enfin, voilà
une
comment on voit les choses,
vu d'avion. Dans 7 mois, Julien Drey.
Une remarque, dans l'affaire des Gilets jaunes, des violences qui ont été commises dans l'affaire des Gilets jaunes, la question qui est posée, ce n'est pas l'IGPN. C'était la théorie de maintien de l'ordre telle qu'elle avait été établie, de contact qui était en cause. Après, l'IGPN, elle faisait avec ce qu'on lui donnait. Mais la question principale, c'était la technique. Et la manière, tout ça avait été dirigé. Donc c'est pour ça que trouver comme seul point de fixation la question de l'IGPN, c'est, d'après moi, t'as pas...
Jean-Claude Dacier.
Moi, je crois que
et
le
après,
président...
le commissaire Lebars.
Là, il n'a pas résisté au besoin politique de faire de la communication. Il doit penser, à tort ou à raison, que l'opinion, une partie de l'opinion, ou certains cercles parisiens, considèrent qu'il n'est pas normal que les policiers soient jugés par les policiers. Comme vous le disiez, les copains qui jugent les copains, on est jugé parti, c'est pas convenable. Même si c'est probablement faux, c'est long, ils sont que 100, c'est long, les dossiers se sont accumulés. Je crois que le président, politiquement, sent qu'il faut faire un petit quelque chose et lâcher peut-être un petit quelque chose. Et il s'est dit probablement que donner le sentiment que l'on place l'IGPN, non pas sous surveillance et sous contrôle, mais que quand même, on verra demain, aux côtés de l'IGPN, une structure probablement parlementaire, de députés, de sénateurs, comme pour le renseignement, capable de demander à l'IGPN de préciser tel ou tel point, de dire telle ou telle chose sur telle ou telle enquête, serait peut-être une bonne chose. Je pense que ça ne va pas plus loin que ça. Le président, il manœuvre, il va par ailleurs annoncer beaucoup de moyens supplémentaires, si ce qu'on dit est vrai, des moyens colossaux qui sont donnés à la police, et puis il lâche un petit quelque chose pour les intellectuels et ceux qui pensent que franchement l'IGPN, c'est pas ce que ça devrait être.
Et Jean-Claude, je m'excuse.
Je viendrai.
Le Parlement, il n'a pas le droit, quand il est en commission d'enquête ou même en commission de surveillance, de rentrer dans les détails quand il y a des procédures judiciaires.
Je ne sais pas. Ouais.
Non, il n'y a pas le droit. Ouais, ça, c'est,
et pour le renseignement, ils font quoi alors?
Dans le renseignement, on ne sait pas des procédures judiciaires qu'on enquête. Ouais. Sur le renseignement, c'est le fonctionnement des services en général. Et là, il y a effectivement un contrôle qui est lié au fonctionnement du service. Alors on peut dire qu'on va mettre en place une commission d'enquête parlementaire sur le fonctionnement de l'IGPN, mais je me semble que ce n'est pas exactement la question qui était posée.
Commissaire Lebars, ça se vient évidemment au lendemain de ce qu'évoquait Maître Golnadel, la fête de l'humanité où on a scandé « Tout le monde déteste la police ». Évidemment, c'est encore un signal qui ne résonne pas de façon agréable aux oreilles des policiers, j'imagine.
Oui, non, mais ça ne sonne pas de façon agréable, mais de toute façon, on sait depuis quelques années que ce signal sur l'IGPN, il a été donné et qu'il va y avoir une réponse. Voilà, ce serait naïf de croire. C'était une des tables rondes du Beauvau qui était dédiée aux inspections, voilà, à l'inspection de la police nationale. Le sujet, c'est de ne pas laisser croire que la police n'est pas contrôlée. Moi, ça, c'est un débat qui m'a vraiment horripilé dans les médias. Je vous rappelle qu'il y a aussi le défenseur des droits, il y a le contrôleur général des lieux de privation et de liberté. Enfin, il y a les parlementaires qui peuvent venir à tout moment contrôler nos lieux de rétention. Enfin, le nombre d'autorités, et d'ailleurs, les avocats, il y a un texte en préparation qui, je crois, est dans la navette parlementaire. Enfin, les bâtonniers qui pourront désigner qui ils veulent, je crois, pour venir visiter les lieux de rétention. Donc, la police nationale, elle est soumise à différentes autorités de contrôle. Et il n'est pas question d'y renoncer ou de le contester. La question, c'est qui va pouvoir être un garant en termes de contrôle d'une autorité qui déjà fait son travail sous l'autorité judiciaire et un volet administratif, le tout en respectant la séparation des pouvoirs entre le judiciaire et l'administratif, parce que tout ça est cloisonné. Donc on va voir ce qu'il en sort. Moi, je vais attendre demain les annonces du président. Je peux comprendre que politiquement, en tant que policier, il y avait un signal à donner à la population, mais il faut faire très attention à la nature du signal pour ne pas donner raison, comme le dit Maître Golnadel, au fait que de toute façon, ceux qui crachent sur la police, ils continueront à cracher, ils ne seront jamais rassasiés, et que ça ne nous fragilise pas notre travail, enfin je ne dis pas, ce n'est pas le mien, en plus celui de l'IGPN, pour qu'elle continue à faire son travail correctement.
Et je rappelle que les policiers représentent 7% des effectifs de la fonction publique, et totalisent 50% du nombre des sanctions. Donc ça redonne un tout petit ordre de grandeur sur les sanctions qui vous tombe dessus.
Si vous me permettez, Laurence Ferrari, on est sans doute un des seuls métiers où on peut révoquer quelqu'un qui quitte son métier sur une décision de l'IGPN, enfin du conseil de discipline, quand bien même un fait aurait été commis dans la sphère privée. Vous êtes un violeur, vous êtes condamné au pénal lourdement et de façon légitime si le viol est reconnu, et vous passez au volet administratif parce que vous avez atteint au renom de la police nationale et vous êtes révoqué de votre métier. Donc je ne connais pas beaucoup de métiers qui prennent ce devoir de virer les personnels qui entachent la réputation de la police, y compris
Maître Golnadel aussi.
Peut-être, oui, mais chez les avocats, on pourra aussi comparer sur le fait que d'ailleurs, le contrôle d'une profession par une profession, ça a l'air de susciter beaucoup de débats au sein de la police nationale, mais je rappelle qu'en France, la plupart des professions sont contrôlées par leur
père. L'ordre des médecins, absolument.
C'est qu'on connaît quand même comment fonctionne une profession quand on en a été soi-même issu. Ce qu'il faut, c'est une garantie d'indépendance.
Julien Drey, vous êtes d'accord ?
Je les défends parce que je pense qu'il mérite d'être défendu. Il y a eu effectivement des cris contre la police à la Fête de l'Humanité. Mais il y a une déclaration sans appel
de Fabien Roussel.
De Fabien Roussel. Et je crois que c'est très important de le dire. Il n'a pas chevauché le qui ou essayé de jouer avec. Il est sans ambiguïté sur la question. Et c'est important, je crois.
Maître Golnadel, vous voulez rajouter quelque chose ?
Ça n'enlève rien à ceux qui...
Ah, je ne dis pas que ça enlève. Non, mais c'est important que la direction... Je ne suis pas convaincu, je m'excuse de le dire, je ne suis pas convaincu qu'il y a quelques années, on n'aurait pas chevauché le qui en laissant passer, etc. Là, il y a une déclaration qui est dans l'immédiat, qui a été spontanée quasiment.
Chacun sait que Fabien Roussel est dans le désir un tout petit peu de se distinguer par rapport à M. Mélenchon sur les, tout ce qui est un peu républicain.
C'est plutôt bien.
Enfin, moi, j'étais quand même assez impressionné par cette foule. Ils étaient nombreux.
Foule des manifestations, des choses comme ça.
Ils étaient nombreux à crier ça, et vous avez un type qui s'appelle David Guiraud, qui est, je crois, insoumis, et qui trouve le moyen. Il faut dire que jamais la finesse de ses analyses m'a spécialement impressionné, mais qui trouve le moyen de dire puisque c'est un
on va l'écouter, rappeur. Vous voulez bien, David Guiraud, qui était ce matin dans la matinale de Romain des Arbres sur CNews.
Vous avez le sens de l'enchaînement, vous.
Et on a trouvé un scoop, hein. Un rappeur qui a des mots pas tendres avec la police. Mais dites, si vous avez d'autres scoops de ce genre-là, moi je suis preneur.
Ça peut être fait en quelques secondes. Vous condamnez et puis voilà.
Mais j'en ai absolument rien à faire de cette histoire. Parce que vous voyez, si vous voulez, il y a un moment, en fait, les rappeurs, comme les artistes, ils ont le droit de dire leur amour, il y en a, ou leur désamour de la police. C'est fait depuis Brassens, depuis Rouen.
Non mais là, la fête de
l'homme. On est en train de parler d'un sujet, encore une fois, moi je vous le dis. Il y a des priorités.
Mais donc vous
ne
condamnez pas. À la France Insoumise, on ne condamne pas.
Mais ce n'est pas une question de ne pas condamner. C'est que là, les gens.
C'est la question.
Non,
c'est ma question.
On est en train de dire aux gens qui sont en train de boire leur jus d'orange, attendez, il faut qu'on parle de la police. On a oublié de parler de la police aujourd'hui. Vous savez, pendant mai 68, c'était CRSSS. Hein, c'était pas plus tendre. Hein. Et on s'en est remis.
C'est pas mieux.
D'accord,
non.
On s'en est tous remis.
Donc vous
pourquoi
dites,
est-ce qu'on perd du temps ? Mais non, c'est rien.
Allez, voilà, David Guiraud de la France Insoumise, interviewé par Romain Desarbres. Ça vous fait bondir, Maître Lebars ? Commissaire Lebars, ouais, pardon.
Je vais vous dire, c'est là qu'on voit que c'est vraiment une entreprise collective où tout le monde est bien rangé derrière le chef. C'est exactement les mêmes éléments de langage qu'Adrien, qu'Athénins. C'est l'hypocrisie. Ils n'ont jamais dénoncé ni les violences, ni la haine contre la police. Ça serpente comme ça. Moi, je salue aussi Fabien Roussel qui a eu le mérite d'y aller clairement. Ça ne doit pas être facile dans son camp. Tous ceux de la France Insoumise citent Brassens, font des circonvolutions pour expliquer que c'est pas très grave et que Brassens ou CRSSS, c'est pas grave. Ces gens-là ne sont pas républicains et à faire ça, ils cautionnent et ils continuent à mettre un petit peu de carburant dans la haine et dans ceux qui alimentent la haine. Il n'y a qu'à regarder la manifestation de samedi. Les anarchistes et les casseurs sont rentrés de vacances et quand ils ont une partie de la classe politique qui leur donne finalement un blanc-seing, et ben ça continuera et après on se demandera pourquoi la police n'est pas efficace en maintien de l'ordre, qui en l'occurrence peut se discuter. Donc voilà, moi j'ai fini de m'étonner. Ils ont par contre effectivement des éléments de langage collectif. Ils récitent exactement la même chose tous en chœur. Voilà, je dis bravo pour la solidarité à la France insoumise sur la haine anti-flic.
Julien Drey, vous êtes choqué par ces propos ?
Je suis choqué parce que j'ai connu Jean-Luc Mélenchon qui était beaucoup plus républicain et beaucoup plus attaché à l'ordre républicain qu'aujourd'hui. Et je ne comprends pas comment on peut chevaucher. Le slogan CRSSS est un slogan stupide. Mmh. On a été un certain nombre de le dire, à le reconnaître à l'époque. Donc je crois que faire référence à ça, ça prouve effectivement que ça ne rend pas service aux relations entre la police et la population. Au contraire. Et c'est pour ça que je pensais qu'il fallait saluer la déclaration de Fabien Roussel, puisque je pense qu'il a pris la responsabilité, y compris d'aller contre un certain nombre des siens.
Allez, on continue ce débat dans un instant dans Punchline. On évoquera le procès d'Alexandre Benalla, l'ancien conseiller spécial de l'Élysée, est aujourd'hui devant les juges. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Et dans Punchline, on va parler du début du procès d'Alexandre Benalla. 3 ans après le 1er mai 2018, il comparaît devant le tribunal de grande instance de Paris, notamment pour violence en réunion et port d'armes. On va tout de suite rejoindre Marie Aubazac sur place au tribunal judiciaire. Bonsoir Marie, que risque vraiment l'ancien chargé de mission de l'Élysée ?
Alors Alexandre Benalla, il risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende puisqu'il est jugé notamment pour port d'armes non autorisées. La présidence est actuellement en train de l'interroger sur ces faits. Alexandre Benalla qui a expliqué qu'il avait été recruté par le parti En Marche en 2016 pour devenir directeur de la sécurité. J'étais là pour régler les problèmes, dit-il, et c'est dans ce cadre qu'il avait obtenu une autorisation de port d'armes, une arme qu'il pouvait porter exclusivement lorsqu'il était présent dans les locaux d'En Marche. Or, on le voit sur une photo prise en 2017 à Poitiers, porter cette arme. Alexandre Benalla qui va donc fournir au tribunal ses explications dans les heures qui viennent. Avant cela, il a été interrogé par la présidente sur son parcours, droit administratif, droit pénal, explique-t-il. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs de la sécurité. Aujourd'hui, il s'est d'ailleurs reconverti dans ce domaine alors qu'il était avant chargé de mission de l'Élysée. Et puis, la présidente l'interrogera plus tard, jeudi, sur une autre affaire qui intéresse le tribunal, celle dite des passeports diplomatiques. Et la semaine prochaine, sur l'affaire dite des violences du 1er mai. Mais elle s'est autorisée une digression lors du début de l'interrogatoire d'Alexandre Benalla. Elle lui a demandé de s'expliquer sur l'attitude qu'il avait adoptée lors de son placement en garde à vue, en refusant notamment de donner le numéro de sa femme. Et concernant la perquisition qui a été réalisée à son domicile, il a expliqué, je cite, « Je ne comprenais pas ce qu'on venait chercher chez moi la veille de mon mariage avec mon fils d'un mois. J'étais surpris, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de positif pour la société en interpellant des délinquants. » Le couple de la contrescarpe hein, qui est partie civile à ce procès est d'ailleurs présent dans la salle d'audience. Et il faut rappeler que ce procès est prévu pour durer 3 semaines jusqu'au 1er octobre. Donc.
Merci beaucoup Marie Obazac. Sur place avec Olivier Gangloff, commissaire de Barse. Effectivement, port d'armes, violence en réunion, ce sont autant de faits qui sont pénalement répréhensibles.
Oui, alors pour le coup, le dossier Benalla, moi je connais bien le volet de sa participation à la manifestation du 1er mai, enfin une manifestation qui avait dégénéré et sur laquelle on lui reproche des violences illégitimes avec son comparse de l'époque. Les autres volets, de toute façon, il y a un procès en cours, je ne me prononcerai pas dessus, même si je connais les qualifications pénales, mais en fait, il y a plein d'affaires Benalla dans ce procès. Voilà, il y a le port d'armes, il y a l'histoire du coffre-fort, il y a la manifestation, il y a les passeports. Moi, j'ai traité à l'époque, en tant que secrétaire général, le volet manifestation et ses liens avec la police nationale, parce que vous savez que des commissaires ont été mis en examen dans cette affaire et vont aussi être cités dans ce procès. Et il y avait eu beaucoup de choses de dites, beaucoup de choses qui étaient fausses.
Par exemple,
il n'était pas chargé de mission. Enfin, c'est un raccourci. Il était celui qui gérait la chefferie de cabinet. Donc, la chefferie de cabinet du président de la République, en 2018, c'était Alexandre Benalla. Avant, c'était d'autres. Ça a toujours été l'interlocuteur privilégié de la préfecture de police de Paris. Et donc, ça a toujours été quelqu'un d'extrêmement connu et identifié par les autorités de la police. Donc, il y en a beaucoup qui avaient perdu la mémoire, d'autres qui l'ont retrouvé. Il y avait beaucoup de non-dits et d'hypocrisie là-dessus. Donc, il a évidemment eu un rôle dans la manifestation qui a outrepassé celui d'observateur. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Et puis, en plus, ça a un peu nui à l'image de la police, pour pas dire plus, parce que finalement, quand on voit un peu les gestes employés, bon, sur l'ITT ou les dommages aux victimes, ça va pas très loin, mais en termes de retentissement et d'image, c'est loin d'être terrible. Et puis surtout, je pense que l'intention, elle était peut-être pas aussi claire que d'interpeller, de mettre à disposition de la justice. Bon, tout ça, il s'en expliquera. Mais voilà, titre personnel, c'était un dossier sur lequel j'ai trouvé que beaucoup de gens avaient perdu la mémoire et certains ignoraient qui il était alors qu'il était à une place importante.
Maître Golnadel, comment Alexandre Benalla a-t-il pu se retrouver dans une manifestation habillé comme un policier et procédant à des interpellations?
Je vais peut-être être indulgent envers lui, mais enfin, je trouve qu'on en fait beaucoup. Hein.
Ah oui, alors...
Attendez, 3 semaines?
C'est le moins qu'on puisse dire.
Non, attendez, trois...
15 jours de procès.
3 semaines, j'ai entendu.
3 semaines,
Semaines, non, mais attends. 3 semaines de procès.
Un jour de procès. Mm-hmm.
Moi, je connais des affaires importantes qui sont traitées en 48 heures.
Mais bien sûr, ça sent la politique à plein
nez. Non, mais ça sent...
Allez-y, Maître Benalla.
C'est un procès médiatisé. Enfin,
Jean-Claude Dacier parlera.
C'est un procès surestimé parce qu'il est médiatisé. D'abord, il est présumé innocent. Je ne sais pas comment ça s'est passé, place de la Contrescarpe, moi. Moi, je n'y étais pas, place de la Contrescarpe. Donc, il s'en expliquera. Moi, je trouve que c'est un garçon qui, méritant, personne, je le dis, je le trouve. Non, mais je ne plaisante pas. Il a 28 ans, il est intelligent, il sait hisser lui-même. A priori, je vais vous dire franchement, j'ai peut-être choqué beaucoup, j'avoue que j'ai un a priori favorable par rapport à ce garçon, et je suis certain. Ça, c'est purement subjectif. Mais objectivement, j'affirme que c'est une affaire très surestimé. À supposer même que, je ne sais pas comment il est intervenu, place de la Contrescarpe, mais 3 semaines pour une histoire de bagarre place de la Contrescarpe. Ah bon, le passeport ? Ah bon,
le port d'armes, etc. Mais on sent que vous auriez peut-être aimé le défendre, peut-être.
Ça ne m'aurait pas dérangé.
Ça ne vous aurait pas dérangé. Julien Drey.
Et j'en vis Jacqueline Lafont.
Absolument, excellente avocate. Julien Drey.
Je suis moins tendre à l'égard de M. Benalla que ne l'est Gilles William. Je veux dire, si un conseiller de l'Élysée se permet de faire la police à la place de la police, se retrouve dans une manifestation, intervient de manière violente, sans mandat, sans rien, c'est quand, moi je ne sais pas s'il fallait 3 semaines ou pas, mais c'est quand même ça pose un problème. De la même manière que l'interrogatoire, la manière dont il s'est déroulé, le refus de donner un certain nombre d'informations. Moi, je ne connais pas le dossier, donc j'attends de voir, mais de loin, de ce que j'ai vu, il y a quand même matière à tendre l'oreille et à comprendre ce qui s'est passé.
Voilà. Jean-Claude Dacier, vous voulez rajouter quelque chose ?
Gilles William a volé ma réplique. Et je suis comme lui, surpris. Je croyais que c'était 15 jours et ça me semblait déjà énorme. Trois semaines, alors on est dans le délire judiciaire le plus absolu. C'est un type, il a outrepassé ses fonctions, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Tout ça est clair et net. On a vu les images où il se bagarre avec les manifestants qui jetaient des pierres ou je ne sais quoi sur la police. Il a aidé.
Il n'aurait pas dû,
mais il n'avait pas d'intérêt personnel. Ensuite, il s'est servi, mon Dieu, quelle faute lourde de passeport diplomatique. Il aurait dû les mettre à la poubelle. Tout ça mérite d'être condamné, sans aucun doute. Alors, il y a l'histoire du pistolet. Alors, lui dit, c'est un pistolet à eau. Je ne sais pas. Ça sent la politique à plein nez. Je ne sais pas qui attend qu'il y ait des révélations, qu'il y ait des indiscrétions.
C'était le premier scandale de l'ère
Macron. Évidemment que Macron a très mal géré en disant qu'ils viennent me chercher. Ça a été un peu ridicule. Trois semaines, je ne sais même pas comment ils vont faire pour remplir des débats pendant 3 semaines.
Je pense qu'ils vont
trouver. Ça sent la politique à plein nez.
Malheur à celui dont le procès est médiatisé. Pour mener n'importe quelle affaire. Malheureusement, par rapport à celui dont le procès n'est pas médiatisé, vous multipliez par 3 les sanctions.
Oui, mais Julien Drey a accepté lui-même que ce soit médiatisé. Parce qu'avant que ces choses-là se passent, il jouait, je dirais, de son statut particulier auprès d'Emmanuel Macron, qui lui donnait une aura spéciale.
Et c'est pas pensé que son procès doit être médiatisé.
Ce n'est pas le dernier perdreau de l'année, Gilles William.
Mais je suis pas dans un procès en béatification.
D'accord. Mais
Julien Drey,
ce n'est pas le dernier perdreau de l'année. Il y a quand même des questions qui sont posées. Alors après, vous focalisez sur les 3 semaines. Moi, je focalise sur le contenu du dossier. Parce que ça m'intéresse de savoir ce qui s'est passé. Je ne veux pas juger à l'avance. Je veux pas
le juger. Ça y ressemble pourtant.
Non. Ce qui y ressemble, c'est la manière dont, dès le départ, vous commencez à essayer de l'innocenter. Moi, je n'innocente pas. Je regarde des faits.
Non plus, je n'innocente pas.
Non, je ne sais pas.
Jean-Claude.
Je dis que là, en 48 heures, on pouvait décider ce que valait l'utilisation de passeport non approprié.
Moi, je suis jaloux. Face à aucun sens. Des affaires autrement plus compliquées.
Aucun sens.
Donne une journée ou 48 heures.
Et le Sénat qui a joué un rôle
politique, jaloux,
que je serai le dernier à lui reprocher. Il a fait un très bon travail.
Un dernier mot là-dessus.
J'ai à peu près la jurisprudence pénale.
Ça vous emballe, c'est à fait. Commissaire Lebas, sur la durée du procès, c'est Jean-Claude, s'il te plaît, merci. Maître Lebas, oh là là, commissaire Lebas, deux fois.
Moi, la durée du procès, on peut être... Quand mes deux adhérents, mais les deux commissaires que je connais bien, pour l'un notamment, m'a dit qu'il avait 3 semaines d'audience, j'étais moi-même étonné. Maintenant, j'irai pas plus loin. C'est vrai que je connais des procès tout aussi chargés en termes de contenu qui vont plus vite.
Allez, voilà, c'est tout. On avance parce qu'on patine là. Julien Drey.
Je vais me faire l'avocat du diable. Si on l'avait raccourci, je pense qu'une partie de l'opérant aurait dit « Ah oui, mais vous avez vu, ils ne veulent pas que la vérité soit faite, ils veulent cacher tout, etc. »
S'il y a une vérité cachée là-dessous, qu'on nous le dise, parce que c'est pas l'objet du procès. L'objet du procès, c'est l'arme,
les
passeports et la bagarre.
Non, l'objet du procès, d'accord, l'arme, mais comment, pourquoi cette arme a été utilisée, ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas. Les passeports, c'est pas rien, quand même, les passeports diplomatiques.
Non, mais la dernière fois que je suis allé à un procès de 3 semaines, c'était pour une très grosse escroquerie, et il y avait au moins 20 escrocs, faut pas exagérer. Et ça a duré 3 semaines, ça méritait.
Allez, on avance, on va parler d'un autre sujet, si vous voulez bien.
Il y a une petite annonce, c'est que monsieur Golnadel est prêt à devenir l'avocat de
Benalla. Oui, mais il y a déjà une très bonne avocate.
On va parler
de ce qui s'est passé à Val-de-Reuil, Julien Drey. Peut-être que vous avez suivi ce qui s'est passé ce samedi avec ces heurts lors d'un mariage. Le maire enfariné, une adjointe bousculée, avec des militants de la LDNA, Ligue de défense nord-africaine. Gérald Darmanin a annoncé ce matin sa volonté de dissoudre cette Ligue de défense nord-africaine après ce qui s'est passé ce week-end. On va voir tout de suite avec Jeanne Cancard. Qu'est-ce que la LDNA ? Jeanne, expliquez-nous.
Peu connue du grand public, la Ligue de défense noire africaine se décrit sur les réseaux sociaux comme un mouvement révolutionnaire pour la défense des droits des afro-descendants et des Africains. Leur page Facebook est suivie par près de 300 000 personnes et depuis sa création en 2017, la structure multiplie les actions chocs et les propos outranciers envers ceux qui participeraient, selon elle, au racisme anti-noir. En janvier dernier, par exemple, alors que la France déplore le décès de deux militaires au Mali, les activistes de la LDNA affirment ne pas regretter la mort de ces soldats et les qualifient de terroristes militaires français. Autre exemple, en juin 2020, cette fois-ci, le groupuscule organise une manifestation illégale contre les violences policières devant l'ambassade américaine à Paris en écho à la mort de George Floyd. Et à cette occasion, le fondateur du groupe prend la parole et qualifie la France d'État totalitaire, raciste, esclavagiste et colonialiste. Certains membres de cette ligue sont déjà connus de la justice puisqu'en novembre 2019, deux membres de cette ligue, dont son président, sont condamnés à 6 mois de prison pour actes d'intimidation et menaces de mort.
Commissaire Lebars, une dissolution demandée par Gérald Darmanin, comme d'autres dissolutions ont été demandées ces dernières semaines.
Mais c'est très bien, ça aurait peut-être même pu être fait avant. Ils ont largement dépassé la ligne rouge. Ce qu'ils ont fait ce week-end, moi je l'ai dit à travers le compte du syndicat des commissaires, ils ont sali une institution qui est le mariage, qui est un moment de bonheur pour les familles. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le respect de ça, quel que soit le motif. Moi, à titre professionnel, je les ai vus faire sur le terrain. Je ne raconterai pas en détail, mais il faut voir à qui on a affaire quand vous les avez en face. Ça a été dit dans votre reportage, ce sont des voyous pour certains, des repris de justice. Ils sont dangereux. Donc, qu'ils soient dissous, c'est très bien et je crois que ça aurait pu être fait avant.
Julien Drey.
Mais non, c'est pas que moi, j'étais étonné que ça n'ait pas été fait avant. Mm-hmm. Parce que pour un certain nombre d'entre nous, on les connaît. On a eu affaire à eux et c'est tout sauf des gentils combattants de la liberté et des choses comme ça. Ils sont extrêmement violents, extrêmement durs. La police les connaît d'ailleurs depuis un certain temps. Ils sont suivis. Et donc, ce qui est étonnant, c'est qu'on ait mis des mois et des mois à prendre cette décision qui aurait dû être prise depuis je dirais, longtemps. Et quand on regarde, moi j'ai été regarder leur site internet, mais franchement, vous avez la nausée.
Maître Golnadel, ça a pris un peu de temps. Il y a eu une tension qui montait à Val-de-Reuil, avec au départ un motif absurde, une bagarre entre deux enfants de 10 ans au bac à sable, les pères qui s'en mêlent, l'un kurde, l'autre sénégalais, et voilà, et la LDNA qui se greffe là-dessus. C'est normal qu'on demande la dissolution de cet organisme ?
Oui, enfin, au-delà de la dissolution, est-ce qu'il va y avoir des poursuites ?
Ben voilà,
c'est la question.
Des poursuites pénales contre ces personnes-là, parce qu'ils ne sont pas très sensibles aux procédures administratives, ces gens-là. Surtout que je ne jurerai pas que parmi les membres de cette ligue, ils soient tous français. Donc un étranger qui explique en France que la France est totalitaire, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la République de France si le type est encore là. Donc moi, là, c'est folklorique, si j'ose dire, la dissolution. Je suis intéressé pour savoir quel est le sort de ces gens en France.
Absolument. Jean-Claude Dacier.
Idem, c'est exactement mon sentiment. La dissolution, ils recréeront autre chose dans 3 semaines sous un autre nom, ça n'a aucune portée. En revanche, s'ils sont tous de nationalité française, il y a des sanctions, il y a des poursuites, et puis les juges apprécieront. S'il y a des étrangers, ou même des binationaux, je pense qu'il serait temps de durcir la réglementation sur les binationaux, parce qu'il y a des excès qu'on ne peut pas tolérer. Mais en tout cas, s'il y a des étrangers là-dedans, ils devraient repartir assez rapidement dans leur pays, si c'est possible. Je sais que c'est compliqué. Mais si on n'arrive pas à régler ce problème-là, mon Dieu, on est mal parti.
Commissaire Lebars ?
Non, mais pour ce qui est des poursuites, j'en doute pas, mais il faut que le maire de Val-de-Reuil, je crois que c'est Val-de-Reuil, dépose une plainte.
Marc-Antoine Jamais.
Voilà, au vu de ce qui s'est passé dans les locaux de la mairie, parce qu'il y a différentes infractions, enfin, avec un peu de conditionnel, mais il y a de la dégradation, il y a de l'intimidation, il y a des violences. Donc il faut qu'il y ait une plainte, peut-être plusieurs plaintes même, parce qu'il y a peut-être d'autres victimes. Et puis après, moi, voilà, la police va agir très vite pour aller chercher les responsables. Et puis, pour ce qui est des étrangers en situation irrégulière, si c'est le cas, ce sont des procédures maintenant qu'on fait automatiquement connexe à la procédure judiciaire. Après, la question de la reconduite, je ne me prononcerai pas parce que vous connaissez les taux de reconduite comme moi, mais ce sont des procédures qui sont diligentées maintenant automatiquement en parallèle de la procédure judiciaire contre l'individu. Donc voilà, tout est dit sur le procédé en tout cas.
Julien Drey, sur la question de la nationalité soulevée par Jean-Claude Dacier.
Là, il faut regarder ce qu'il en est. Je ne suis pas convaincu, moi, qu'il y ait des doubles nationalités. On va voir. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la dissolution, elle permet les poursuites individuelles. Elle ouvre même la voie de manière, je dirais, système automatique à des poursuites individuelles. Et ça, la question qui est posée, c'est les poursuites individuelles, les sanctions qui doivent aller de pair. Je pense que le maire de Val-de-Reuil, que je connais un peu, va pas tarder à porter plainte parce que ce qui s'est passé est très grave. Mais moi, je maintiens que c'est toujours la même chose, c'est qu'on a attendu, et je comprends pas pourquoi on a attendu par rapport à la réalité de ce type d'association.
Julien Drey, effectivement, c'est ce que vous venez de dire. Un mot, commissaire Lebars, concernant ce qu'on avait évoqué à l'humanité, la fête de l'humanité. Vous demandez des poursuites pénales contre les gens qui ont chanté « Tout le monde déteste la police » ou pas ?
Au risque de vous surprendre, non, parce que d'abord, je trouve qu'il est élégant de la part de Fabien Roussel, qui représente le Parti communiste, de s'être prononcé très rapidement et d'avoir dénoncé, et en tout cas d'avoir dit clairement de ne pas s'approprier ça, quand on invite un rappeur qui chante ce genre d'insanité, il ne faut pas s'étonner qu'il la fasse chanter à la foule. On ne va pas faire des poursuites pénales pour 3000 personnes qui assistent à un concert. Moi, je regrette un peu j'étais commissaire à Saint-Denis, comme vous le savez, donc j'ai déjà arpenté la fête de l'humanité. J'irai pas jusqu'à dire que c'était une super fête, mais c'était quand même bon enfant. C'est vraiment le genre de choses aujourd'hui qui coûte encore plus cher à l'institution police de le laisser faire ou de ne pas le dénoncer. Juste le dénoncer ou dire que c'est pas bien, ce serait, vous voyez, c'est très enfantin. Ça serait déjà pas mal. Donc de là demander des poursuites pénales aux élus qui en plus n'ont pas le courage de le dénoncer parce qu'ils pourraient perdre une partie de leur électorat. Moi je pense qu'ils ont, vous voyez, il y a un acteur qui nous a quitté en France récemment. Là, il était peut-être d'une autre génération, mais il a été à la fois sans doute l'acteur préféré des Français et lui il a fait le contraire de ce que font beaucoup aujourd'hui dans la classe politique ou dans le showbiz. Il aimait la police, il aimait les militaires, il leur rendait bien, il s'affichait avec eux. Ça ne lui a pas coûté sa place de personnalité préférée des Français. Donc voilà, il y a deux époques.
Un tout petit mot avant la pause, Maître Gonadel.
Moi, mon anticommunisme primaire assumé fait que je ne vous m'entendrai jamais dire du bien de la fête de l'humain, même quand j'y allais, quand j'étais petit. Ceci posé...
Pourquoi vous y alliez, d'ailleurs.
Allez-y, oui, maître, parce que nous avons peu de temps. Le temps nous est compté.
Non, mais ceci posé, profondément et un peu Guiraud le dit
de la France insoumise,
à sa triste manière, mais il y a fondamentalement, culturellement, une indulgence par rapport aux rappeurs. Et cette indulgence, elle va très loin. Elle va jusqu'à la cour d'appel où on considère... On intègre déjà que les rappeurs... doivent détester la police, et même celui qui disait qu'il fallait mettre un billet sur la tête de Zemmour, on a considéré, au moins en première instance, que c'était une sorte de liberté poétique. C'est-à-dire que les rappeurs ont le droit de faire du racisme anti-flic, de faire du racisme anti-blanc. C'est permis parce qu'ils sont des rappeurs.
On continue ce débat dans un instant. Je vous passe la parole, Julien Drey, dans un instant, dans Punchline. On fait une petite pause. On parlera des rappeurs. On parlera aussi d'Éric Zemmour. A tout de suite dans Punchline et sur Europe 1.
Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Et on se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs Jean-Claude Dacier, consultant CNews, Maître Gonadel, a priori avocat, Julien Drey du Parti Socialiste et David Lebars, commissaire de police. On va évoquer le cas d'Éric Zemmour. Le journaliste ne sera plus à l'antenne de CNews qui, vous le savez, a été contraint par le CSA de décompter son temps de parole. Il ne sera donc plus présent sur l'antenne tous les jours. Il était ce matin chez Pascal Praud. Peut-être, Julien Drey, un mot sur la décision effectivement qui contraint la chaîne à se séparer d'Éric Zemmour. Est-ce que la liberté d'opinion est à géométrie variable dans notre pays ?
C'est compliqué parce que moi, je suis pour laisser le plus de liberté possible à tout le monde, mais c'est vrai qu'il a joué d'une ambiguïté. Je m'excuse sans vouloir en faire... il a joué de cette ambiguïté, je suis candidat, je ne suis pas candidat. Je regardais samedi, on ne savait pas bien. Il est quand même au bord d'être candidat. Et c'est vrai qu'à un moment donné, s'il est candidat, c'est compliqué pour le CSA de dire bah non, tout est pareil. C'est lui qui a joué, qui a installé cette ambiguïté. Et donc la question d'ailleurs qui lui est posée, c'est pourquoi il attend.
Jean-Claude Dacier.
Non, moi je suis pour la suppression de ces règles qui n'ont aucun sens, aucune portée et pas de signification. Et qui sont même très difficiles.
Quelles règles ?
Les règles de mesure du temps de parole des uns et des autres. Non, je suis dans une société.
C'est la démocratie.
Non, ce n'est pas la démocratie.
On donne en temps de.
Une caricature de la démocratie.
En temps électoral, le temps de s'exprimer à tout le monde.
Oui, mais non, mais bien sûr. Mais enfin, on peut penser qu'il y ait un certain nombre de médias, d'ailleurs c'est le cas en presse écrite, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas en radio ou en télévision. En plus de ça, toutes ces mesures sont totalement artificielles. On avait classé Éric Zemmour dans les divers droites, alors donc si effectivement on comptait une heure d'émission sur CNews pour les divers droites, il fallait supprimer du Bertrand, il fallait supprimer du Pécresse, tout ça n'a pas de sens, et je suis même à peu près convaincu qu'en dépit du nombre important de gens qui travaillent au CSA, ils ont le plus grand mal à tenir une comptabilité minute par minute de ce qui se dit tous les jours dans les médias, sans parler qu'ils ne contrôlent même plus ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Tout ça n'a plus grand sens aujourd'hui. C'est des vieilleries qu'on traîne et qui ne sont pas la démocratie, qui sont des obstacles à la démocratie.
Maître Golnadel.
Il était au bord d'être candidat, alors il devait être au bord d'être décompté. Il n'était pas encore candidat. Non, ça me heurte profondément. J'ai l'impression aussi que M. Macron est au bord d'être candidat. Hein. Et je ne sache pas qu'on lui ait décompté son voyage à Marseille, qu'un esprit un peu
c'est
chagrin pourrait considérer comme non dénué d'arrière-pensée politique. Allez savoir. Donc non, ça me... Et puis vous savez, moi, profondément... J'en veux beaucoup au CSA, sur le fond, d'être extrêmement méticuleux en ce qui concerne les télévisions privées et extrêmement laxiste en ce qui concerne les télévisions publiques parce qu'ils ne regardent absolument pas le cahier des charges des radios télévisions publiques qui sont obligées au pluralisme. Compte pas. Tous les éditorialistes sont de la même couleur. On compte pas. Non, ça me gêne un peu.
Julien Drey.
Mais tous les éditorialistes ne sont pas candidats à l'élection présidentielle.
Non, mais je parle d'autre chose. Je parle du travail du CSA.
Non, je ne suis pas d'accord avec vous. D'abord, malgré tout, le CSA, il fait respecter un certain équilibre. Parce qu'il y a plein de petits candidats, sinon, qui n'auraient jamais eu la parole et le droit à la parole. Et de candidats qui peuvent dire des choses, qui disent des choses importantes. Et donc, malgré tout, l'intervention du CSA, elle permet qu'un certain nombre de courants de pensée qui existent dans notre pays, qui n'ont jamais accès à la télévision, à la radio, puissent y avoir un minimum accès. Et ça, je pense...
En période électorale.
Oui, mais c'est le strict minimum. En période électorale, il y a quand même un équilibre. Non. Moi, je m'excuse, je respecte Éric Zemmour, je suis en total désaccord avec beaucoup de choses, j'adore débattre avec lui, parce que j'ai plein de choses à lui reprocher, y compris sur son dernier livre, où il dit des choses fausses me concernant, donc on va quand même s'expliquer à un moment donné ou un autre, lui et moi, comme on s'est expliqué la dernière fois sur les Juifs d'Algérie, je n'ai toujours pas la réponse, je finis la parenthèse, mais il a joué d'une ambiguïté, et il le sait pas, il joue d'une ambiguïté, et c'est en ce sens-là que ça me dérange. Il adore se faire victimiser. Et c'est ça le problème, c'est qu'il en permanence, il veut se donner le sentiment qu'il est persécuté par le système. Écoutez, moi j'aimerais bien être persécuté par le système comme il l'est.
On va écouter ce qu'il a dit ce matin chez Pascal Pro à propos des femmes et des menaces concernant les femmes.
Qu'est-ce qui menace les femmes aujourd'hui ? C'est pas les méchants blancs hétérosexuels, comme on veut le faire croire et comme les féministes veulent le faire croire. Non. C'est à Sevran qu'il n'y a pas de femmes dans les cafés. C'est dans toutes les banlieues islamisées qu'on leur interdit de mettre des jupes et qu'on leur crache dessus quand elles mettent des jupes.
Bien sûr, il n'y a pas de souci.
C'est moi qui défends, en vérité, les femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont menacées dans leur liberté, dans leur vie, et non pas, encore je le regrette, encore je le dis, par les blancs hétérosexuels. Elles sont menacées par l'islam.
Julien Drey, c'est lui qui défend les femmes ?
Non, je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui des violences qui s'exercent à l'égard des femmes dans un certain nombre de quartiers. Mais les féminicides, ça existe aussi. Et les féminicides ne sont pas commis que par les islamistes. Il y a, je ne sais plus combien, dizaines de femmes qui sont assassinées, frappées, battues, et ce n'est pas que des islamistes. Donc pourquoi tout d'un coup dire ça ne concerne que les uns et pas les autres ? Ça concerne les deux. Voilà. Ce n'est pas de la même nature, ce n'est pas de la même chose, mais c'est toujours le même problème avec, dans son équipe.
Attendez, pas tout ça, mais laissez terminer, Julien.
C'est toujours le même problème avec Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'il va mettre en avant les uns et il va oublier les autres. Et moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on oublie les autres.
Alors, Jean-Claude Dacier.
Ça existe, il y a des femmes mortes.
Vous avez raison. Jean-Claude Dacier,
Maître Mélanie. Mais les féminicides, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'islam. Et le fait que les femmes qui sont sous le joug, la plupart du temps, du chef de famille, s'il est un peu respectueux de la religion qu'il pratique, sont tenues à une discrétion qui est insupportable dans une république comme la nôtre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je crois au contraire que le salut de l'intégration viendra par les femmes, parce qu'elles vont trouver insupportable ce qu'on les amène à respecter et à se comporter comme on leur demande de se respecter. Il est normal qu'on considère dans un pays comme le nôtre qu'une femme musulmane ne puisse pas aller boire un café sans être automatiquement montée du doigt, voire insultée par deux, trois copains qui sont dans le secteur. C'est pas normal de tolérer une situation qui est faite aux femmes dans ces conditions-là.
Dans ces cas-là, Éric Zemmour, quand il dit « je dénonce les féminicides », je condamne les féminicides.
Bien sûr.
Moi, je défends les femmes, simplement les femmes des quartiers.
Non, moi, je pense pas qu'il dit. Je pense pas qu'il met ça dans la tête. Je pense pas.
Ouais, mais il l'a pas, mais en tous les cas, ça s'exprime comme ça. De la même manière, je m'excuse de dire que j'ai été. Vous allez avoir la parole, c'est sûr. Mais de la même manière que je m'excuse, j'ai été particulièrement choqué sur des phrases qui sont tenues dans son livre concernant les enfants d'Ozatora et le parallèle qu'il fait avec les terroristes.
On va expliquer la phrase que vous évoquez dans le livre. Maître Golnadel, justement, expliquez-nous.
attendez, on n'a pas, j'ai pas répondu d'abord.
Alors sur, répondez, faites comme vous voulez. Voilà.
D'abord ça, moi ça fait pas, ça fait partie des 90% que j'approuve chez Zemmour. C'est justement le fait, même s'il l'a dit effectivement de manière un peu manquant de nuance tout à l'heure, ce que veut dénoncer Zemmour et que j'approuve à 100%, c'est le fait que chez les nouvelles féministes, l'objet de détestation, c'est le mâle hétérosexuel blanc. Ce qui fait qu'elles ne regardent absolument pas une grande partie, justement, des maux faits aux femmes qui sont causés, effectivement, dans les quartiers par une culture qui n'est pas la culture occidentale. Ça n'est pas douteux. Je pense encore à Chahinez, dont les féministes se moquaient complètement, qui voulait vivre en française. Son mari ne voulait pas et elle est morte brûlée vive. Et je n'ai pas vu beaucoup les Caroline de Haas et compagnie monter au drapeau là-dessus.
Okay.
Pour le reste,
dans le
j'ai
livre,
beaucoup de divergences avec Zemmour.
Ce qu'évoque Julien Dresse, c'est que Éric Zemmour fait le constat que Mohamed Merah n'a pas été enterré dans notre pays et les enfants de l'école aux Arts à Torah n'ont pas été enterrés dans notre pays. Est-ce que ça, c'est un constat qui vous choque?
Bien sûr, ça me choque, ça me navre. D'abord, Maître quand Gonnet. On a, je vais vous le dire, hein, ça n'empêche rien mon amitié pour Zemmour, mais ça fait partie des divergences avec l'histoire des prénoms, avec l'histoire de Pétain, avec l'histoire de beaucoup de choses. Pardon, d'abord, quand on fait de la politique, quand on décide de faire, il faut être dans l'empathie. Donc, la manière dont il l'a dite manquait un peu d'empathie. Ensuite, pardon de le dire, dans la religion juive, on dit l'an prochain à Jérusalem. Donc, indépendamment de l'attachement profond que vous pouvez avoir pour la France, vous pouvez souhaiter être enterré à Jérusalem ou en terre promise. Ça n'enlève rien du tout, mais rien du tout au patriotisme à l'égard de la France. Et j'ajouterai en plus, sur le sort de ces petites filles, là, j'ai du mal à en parler, qui ont été... Merah les poursuit, les attrape par les cheveux. On ne voulait pas non plus que leur tombe soit profanée. Voilà.
C'était
donc
ça aussi.
Pour des tas de raisons, ça fait partie des grandes divergences que j'ai avec Éric.
Est-ce qu'il y avait un risque que leur tombe
bien sûr soit profanée,
dans
comme,
notre
la,
pays.
Comme la tombe d'Ilan Halimi a été
exactement.
Mille fois profanée, et comme il arrive que la stèle de Simone Veil l'est aussi.
Julien Drey.
Moi, franchement, dans la dénonciation de l'islamisme, on ne va pas me donner des leçons. Hein. Je veux dire, y compris sur la question de la situation des filles. Moi, j'étais un des premiers à soutenir l'association Timputi Soumise. Et je peux vous dire qu'elles en bavaient dans les quartiers, justement, face aux islamistes, etc. Et tout. Ce qui me gêne, c'est le système qu'il construit. Et ce système qu'il construit fait qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans cette affaire-là. Sur les féminicides, il aurait simplement dit... Il peut pas dire « je défends les femmes ». S'il défend les femmes, il défend contre l'islamisme et contre les féminicides. Parce que sinon, ça veut dire que bon, les mâles blancs, finalement... Non, les mâles blancs, bah, ils vont pas assassiner les femmes comme ils le font, pas plus que les autres, d'ailleurs. Et dans l'affaire du livre, là, moi, je vous le dis honnêtement, moi, je suis là vraiment révolté. Parce que il peut me raconter ce qu'il veut. Des fois, on peut s'emporter. Des fois, on peut avoir des mots qui dépassent ses pensées. Des fois, on peut faire des confusions. Ça nous arrive à tous. Là, c'est écrit, c'est relu. Donc c'est réfléchi, c'est pas un hasard. Et faire ce parallèle-là, c'est pas que c'est choquant, c'est terrible. C'est terrible, parce que en plus, et ça me permet de faire une remarque, vous savez, Éric Zemmour, il a un problème. C'est comme dans cette fable d'Alphonse Daudet, il faut à tout prix que le pied rentre dans la chaussure. Mais quand la chaussure va pas, alors il déforme la chaussure. Parce que, comme le disait Gilles William, c'est historiquement, dans l'histoire du peuple juif, l'an prochain à Jérusalem, c'est 5000 ans d'histoire. C'est un symbole. Ça n'a rien à voir avec la nationalité. Et ça veut dire surtout qu'il n'a rien compris à ce que c'est que l'histoire du peuple juif. Et c'est ça qui est grave.
Un mauvais juif.
Jean-Claude Dacier ?
Non, je ne dis pas ça. Personne ne peut dire que c'est un mauvais ou un mauvais.
C'est pas un mauvais juif, ni un juif honteux. Il peut lui arriver de vouloir absolument, à mon avis, dans son inconscient, prouver qu'il est français. Et dans cette quête... On ne sait jamais où ça s'arrête. Mais c'est pas du tout un mauvais juif.
C'est pas le problème de savoir si c'est un mauvais juif ou non.
Non, pas du tout. Ni un juif honteux, ni quoi que ce soit. Et non.
S'il oublie l'essentiel,
il y a un désir.
Non, mais je suis d'accord avec vous.
Il y a un désir inconscient de.
Je pense qu'il veut toujours en faire trop. Il veut toujours en faire trop. Il veut toujours donner des gages. C'est pas des gages qu'il donne là. C'est des erreurs. Et par ailleurs, c'est une insulte à la mémoire de ces familles-là. Parce qu'elles ont expliqué elles-mêmes pourquoi elles les avaient enterrées en Israël. Et pourquoi, y compris, elles avaient peur. Parce que c'était ça aussi la réalité.
Il y a les prénoms aussi qui font débat.
Alors, le fait qu'on donne des prénoms français aux enfants nés sur le sol français, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition?
Non, je lui ai dit.
Maître Gonnadel?
Non, d'abord, moi, on m'a appelé William, c'est pas très français, déjà. premièrement. Deuxièmement, je crois, franchement, moi je suis, comme lui, opposé à tout progrès de l'immigration, très sensible à l'immigration massive. Je souhaite vraiment qu'elle s'arrête. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Mais pour ceux qui sont là, pour les musulmans qui sont là, d'origine immigrée, vous pouvez très bien vous appeler Mohamed et devenir un excellent Français. Et je souhaite d'ailleurs qu'on leur foute plutôt la paix. Donc ça fait partie des divergences que j'ai avec Éric Zemmour, même si je suis d'accord avec lui sur beaucoup de choses.
Il y a une très belle intervention d'Amine, justement El-Khatmi, qui rappelle tous ceux qui sont tombés sous les balles et qui avaient des noms qui n'étaient pas forcément des noms français, qui étaient des soldats, qui étaient des policiers. Et cela, on va leur dire quoi ? On va leur dire non, vous n'étiez pas vraiment français parce que vos parents, vous n'avez pas donné le prénom qu'il fallait ?
Commissaire Lemars ?
Ça me fait penser à Ahmed Merabet. J'étais de permanence le jour où il y a eu les attentats et j'ai vu la famille d'Ahmed Merabet. Donc je pourrais citer tous les prénoms des parents, de ses frères, etc. C'était un policier qui a été abattu lâchement par un des terroristes aux attentats de janvier 2015.
Kouachi, par les Kouachi.
Bon, voilà, donc évidemment, c'est le contre-exemple parfait de tout cela. Après, je me prononcerai pas sur le débat. L'autre éclairage que je voulais donner, c'est vrai qu'aller regarder que d'un côté sur qui est l'auteur des violences des femmes, c'est jamais bon, mais donner un éclairage complet, c'est par exemple les statistiques de la délinquance à Paris. On a appris récemment que l'arrondissement parisien dans lequel il y a la plus grande concentration de faits de violences conjugales, c'est le 16e arrondissement. Voilà.
Donc, pas le 8e ?
Je crois que c'est le 16e, de mémoire. En tout cas, c'est ni le 19e ou le 18e.
Bon,
c'est l'ouest parisien.
Le quartier le plus riche de Paris.
Voilà, donc il faut être
sur
prudent.
Les violences faites aux femmes.
Ouais. Sur les
violences. Moi, en tant que policier, je suis témoin que ce sujet-là, il touche toutes les couches sociales, quels que soient les revenus, quelles que soient les origines. Donc il faut qu'on soit prudent. Mais évidemment, ne pas ignorer que les violences faites aux femmes dans les quartiers, là où il y a l'islamisme, c'est effectivement peut-être plus violent et en même temps plus enfoui, parce que ce n'est pas évident non plus à voir. Ou à faire sortir auprès des services de police. Voilà, c'était le seul témoignage dans lequel...
Julien Drey.
Ils ne portaient pas forcément des noms français exemplaires. Mais ceux qui tombaient à Monte Cassino, ils représentaient plus la France que ceux qui allaient arrêter les Juifs dans un certain nombre de quartiers.
Et qui, eux, étaient français. Jean-Claude Dacier, un dernier mot sur le sujet ?
Sur le sujet, non, parce que je crois qu'on est tous d'accord et qu'il y a des polémiques qui sont plus gênantes qu'efficaces pour un objectif qui est celui de quand même... de l'intégration des musulmans qui sont dans ce pays et qui sont... Moi, ce qui me désespère, c'est qu'on ne peut même pas en parler avec précision, puisqu'on n'a pas le droit de savoir exactement de quoi est composée la société française. Et je pense que les statistiques ethniques nous manquent beaucoup. On est le seul pays qui se refuse. J'ai toujours pas compris pourquoi savoir exactement ce qui se passe dans notre pays. Mais on manque d'une vraie politique migratoire. Et je pense que dans ce débat-là, le camarade Zemmour va être utile, important, ô combien pour une campagne qui va sans doute se réveiller, parce qu'il va mettre de l'ambiance dans les propos
Marine
et dans les débats.
Marine Le Pen a tenu sa rentrée politique hier. Hein,
Marine Le Pen a fait sa rentrée politique, elle n'a pas dit un mot d'Éric Zemmour. Moi, j'ai trouvé, mais je suis sans doute le seul de mon avis, j'ai trouvé que ça manquait de souffle. J'ai trouvé ça, trouvé que ça un peu triste. J'ai trouvé que souvent, elle attendait dans le texte des applaudissements qui ne sont pas venus. J'ai trouvé que même les militants étaient un peu perdus. Et sur le fond de son discours, on va en parler peut-être un autre jour, mais sur le fond du discours, alors là, je n'y comprends plus grand-chose.
Alors, Julien Drey, un petit mot sur le discours de Marine Le Pen hier à Fréjus.
Elle est effectivement sous la pression d'une concurrence que représente Éric Zemmour. Moi, je souhaite que le débat ait lieu, y compris avec Éric Zemmour. Parce que je pense qu'il raconte beaucoup de choses qui sont fausses. Et que jusqu'à maintenant, il a exercé, à l'inverse de ce qu'il croit, une forme de terrorisme intellectuel. Parce que c'était Éric Zemmour, et parce qu'il disait des choses sur l'immigration que les autres n'osaient pas dire, alors c'était la vérité. Ce n'est pas la vérité. Et moi, je suis prêt à débattre avec lui à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je le sais d'ailleurs, il n'aime pas beaucoup débattre avec moi.
J'ai cru comprendre qu'on parlait de Marine Le Pen, mais on ne peut pas dénier...
Un tout dernier mot ?
Non, on ne peut pas dénier, et c'est son grand mérite, même s'il y a des excès, à Éric Zemmour, un très grand courage intellectuel, et dont il a fait montre aussi quand ça pouvait être... très problématique pour lui.
Moi, c'est sur Quant à
ses condamnations... Non, mais avec des scories. Hein, avec
des scories. C'est pas des scories, c'est réhabiliter Pétain.
Quant à ses condamnations en justice, c'est très étrange. Moi, j'ai fait condamner, il y a 10 ans ou 15 ans, Serge Julie pour exactement les mêmes causes. On n'a jamais pensé à vouloir interdire Serge Julie quelque part. Hein.
Mais le problème, bon, c'est pas de.
Quant à Marine Le Pen, je n'ai pas entendu son,
discours. Son discours. Voilà, ça sera le dernier mot.
Non, je voulais simplement dire que moi, c'était sur l'économie que j'avais de lourdes divergences avec le camarade Zemmour.
Parfait, merci.
Mais là aussi, il va s'en expliquer.
À tous les quatre. Merci, commissaire Lebars, Julien Drey, Maître Golnadel, Jean-Claude Dacier, d'avoir participé à cette émission Punchline sur CNews et sur Europe 1. Nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de Punchline à la radio sur Europe 1. Et tout de suite, vous retrouvez donc Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.